Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Alors, aujourd'hui, nous allons vous proposer de voyager. Alors, on ne va pas voyager tout seul, on va plutôt suivre les traces d'un grand voyageur, Fabien Bastide. Bonjour, Fabien.
Bonjour, bonjour.
Alors, un grand voyage que vous avez fait, qui a duré une bonne année, mais on pourrait presque dire qu'il a duré 8 ans, ce voyage.
Ouais, le voyage itinérant a duré 1 an et demi, mais oui, il s'est un peu prolongé après, de façon un peu différente.
Voilà, et vous êtes resté sur place. Alors, le sur place, c'est où? C'est le Laos.
Ouais.
Donc, un voyage que vous avez fait il y a quelques années, avec, de Montpellier au Laos, par des itinéraires
plus ou moins
un peu allés. En partie aléatoire, en partie bien réfléchi. Enfin, cela dit, l'aléatoire peut être très réfléchi aussi. Hein.
C'est un concept qu'on essaie de tenir, ouais, voilà. L'aléatoire.
Et vous êtes parti. Alors, j'ai envie de dire, vous êtes parti à deux, mais en fait, non, vous êtes parti à trois.
Alors, effectivement, on est parti à trois. Disons que le troisième maillon, le troisième élément du voyage, qui est en fait notre deux chevaux, Rustine, qui était au départ qu'une deux chevaux, en fait, mais qui, au fil du voyage, a pris beaucoup d'importance, notamment par rapport aux rencontres qu'on a faites tout au long du voyage et toutes ces portes qui ont été ouvertes grâce à Rustine et à sa sympathie, on va dire.
Oui, c'est vrai que la deux chevaux a toujours, même en France, ce côté sympathique. Mais alors, sur des grands itinéraires où elle va à l'autre bout du monde, plus, vous l'aviez décoré.
Oui, on l'avait un peu décoré, mais même sans décoration, c'est une voiture qui a tout un tas d'avantages. C'est vrai que c'est une voiture qu'on connaît un peu partout dans le monde, qui a été exportée pendant ces belles années, ces années glorieuses, entre les années 70 et 90. Elle a été exportée un peu partout et c'est une voiture qui est connue dans le monde entier pour être robuste, économique et qui passe partout. Et puis en plus, qui a une silhouette plutôt rigolote. Donc,
Oui. Et puis voilà, on peut intervenir dessus assez facilement. On n'est pas obligé d'aller voir un mécanicien avec tout l'équipement informatique ou que sais-je pour réparer une toute petite chose.
Et vu notre niveau de mécanique, de nos connaissances en mécanique, c'était plutôt un avantage.
Il valait mieux, quoi.
Il valait mieux.
Alors, voyage donc de Montpellier au Laos. Qu'est-ce qui était à l'origine de ce voyage? C'était pas votre premier voyage, hein. Vous êtes un voyageur expérimenté, si je puis dire.
Oui, c'était pas notre premier voyage. On avait, avec Aurélie, donc mon épouse, on était partis déjà par Mons et par Vaux avant ce voyage-là. Mais en fait, on avait en tête cette idée de rejoindre le Laos. Le Laos, qui est le pays du papa de Coralie, qui est en France depuis son adolescence, depuis les années 70, depuis que le régime là-bas a changé. Et donc, ni Coralie ni moi ne connaissions ce pays-là. On n'y avait pas encore mis les pieds et on avait une envie, c'est de le découvrir un peu en profondeur pour découvrir justement ces racines laotiennes de Coralie. Mais on n'avait pas envie d'y partir en avion. On avait vraiment envie de mériter, d'avoir ce temps de réflexion en traversant tous ces pays pour rejoindre le Laos par la terre, pour bien mûrir ce projet en prenant le temps de s'en approcher doucement et à échelle humaine, hein, dans un temps lent.
Alors, ce temps-là, alors, voilà, je me disais, j'avais envie de vous proposer comme ça des mots-clés pour rentrer dans ce voyage. Hein. On voyage, nous, à travers les mots, ce serait ce que vous nous proposez. Alors, voilà un mot, lenteur. Quoi c'est fondamental pour un voyageur, la lenteur?
Alors, dans le mot lenteur, moi, je vois deux choses. Je vois d'abord le fait d'essayer de se rapprocher au maximum de la mobilité humaine, on va dire, de la marche, qui est une autre façon de voyager, qui, à mon avis, est même de loin la meilleure, à mon avis. Mais du coup, la lenteur, c'est ce qui nous permet d'avoir une vision sur le monde extérieur et avoir le temps de la réflexion quand on découvre à la fois les gens, mais aussi les paysages. Et tout ce qui nous entoure. Mais il y a aussi une deuxième notion dans la lenteur, c'est aussi le fait de ne pas avoir d'échéance. Ça, c'est quelque chose qui est un luxe aujourd'hui, de ne pas avoir d'échéance quand on part quelque part. Mais ça change tout, parce qu'on peut se permettre de voyager lentement quand on n'a pas forcément d'échéance de retour, de date de retour. Et là, c'était le cas pour ce voyage-là. Et donc, forcément, ça a donné une identité au voyage et des avantages qu'on n'aurait jamais eu si on avait dû rentrer au bout d'un an, si on avait, même sur une période longue, savoir qu'on doit rentrer à une date précise, c'est toujours un couperet, c'est toujours une épée de Damoclès sur l'expérience qu'on est en train de vivre. Donc oui, la lenteur, pour moi, c'est peut-être le luxe le plus grand qu'on puisse avoir en voyage.
Mmh. Alors, le luxe le plus grand, parce que, alors, peut-être ça serait une autre entrée, je me disais, la question de la précarité et de la vulnérabilité du voyageur qui est aussi un atout. En tout cas, à travers ce que vous racontez, c'est l'impression qu'on en a.
Alors, ce sont des choix. Il y a mille façons de voyager. Nous, on a toujours fait le choix de voyager avec le moins possible parce que, voilà, plus on embarque avec nous notre quotidien, nos petites habitudes et tout ça, moins on se détache de notre vie, on va dire, classique, et moins on a, du coup, la chance de pouvoir vraiment s'ouvrir à ce qui se passe au quotidien sur un voyage au long cours. Donc nous, on est toujours parti avec le moins possible, en sachant pertinemment qu'à partir du moment où il y a d'autres humains autour de nous, c'est que les gens s'en sortent bien et qu'il n'y a pas de raison qu'on s'en sorte mal, d'autant plus qu'on a en général l'appui des gens qui nous accueillent. Donc il n'y a pas besoin de grand-chose, en fait, pour partir. Donc il y en a qui appellent ça peut-être de la précarité ou de l'inconfort. Nous, on appelle ça, c'est plutôt un sésame. Pour pouvoir vivre une expérience à la hauteur de ce qu'elle peut nous offrir.
Oui, puis il y a peut-être une idée, alors on va le dire avec un terme un peu d'actualité, une sobriété aussi dans ce voyage. Il n'y a pas de... L'empreinte carbone d'un tel voyage n'est pas énorme, quoi.
Finalement, non. Alors ça a été un vrai sujet avant de partir, puis après notre retour, où on a effectivement eu beaucoup d'échanges avec beaucoup de gens qu'on a rencontrés sur l'impact qu'on pouvait avoir. Mais la sobriété, enfin le voyage simple, dans des conditions simples, et notamment avec une deux chevaux qui n'est ni un 4x4 ni un vélo, donc c'est un espèce de compromis entre les deux, ça reste un moyen de déplacement qui ne permette pas l'excès, quel que soit l'excès d'ailleurs. Donc effectivement, c'est un voyage sobre. Il y a eu très peu de... On a fait notre petit calcul quand même d'empreinte carbone. Bon, on s'est rendu compte que notre empreinte carbone était beaucoup plus importante en restant en France dans un mode de vie quotidien tel qu'on le connaît ici qu'en faisant quelques dizaines de kilomètres par jour en deux chevaux, voilà, même sur 35 000 kilomètres.
D'accord. Alors, il y a d'autres entrées comme ça, mais on va les reprendre tout à l'heure, parce qu'on va faire une toute petite pause. D'ailleurs, les pauses, c'est important dans le voyage.
Ah oui. Alors, il y a tout un tas de raisons de faire des pauses, soit pour la contemplation, soit pour la peur, soit pour la réflexion, soit pour des problèmes techniques aussi, souvent. Mais oui, c'est un équilibre à trouver, l'itinérance et les pauses, ouais.
L'itinérance et les pauses. Allez, on va faire une petite pause et puis on se retrouve dans très peu de temps pour continuer le voyage.